France Culture. Titouan Lamazou, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve pour le deuxième épisode de nos avenues qui en comptent cinq, je le rappelle. Et j'ai intitulé ce deuxième épisode, c'est la mer qui prend l'homme. Et il se trouve que je l'avais intitulé comme ça, avant même de savoir que vous aviez fait aussi, dans vos très nombreux ouvrages, un livre sur Renaud.
Sur Renaud, oui.
Donc, comme quoi, oui. grands esprits.
Oui, vous... c'est un petit peu un ovni dans mes publications.
Mais oui, je ne l'attendais pas.
Un jour, j'ai rencontré au hasard Renaud dans un bar, n'est-ce pas? Et il m'avait dit, j'aime beaucoup. Alors, j'ai été très surpris parce que j'étais un grand fan de Renaud depuis ses premiers disques. Et Renaud m'a dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Et j'aimerais bien que le prochain album soit toi qui en fasses les visuels, l'illustration. Alors, ça, moi, j'étais tout à fait honoré. Il a fallu que j'attende une dizaine d'années, parce que c'est une période creuse de Renaud. Et un jour, il m'a rappelé, j'ai eu un message qui a duré une plombe sur mon répondeur, en me disant, voilà, je sors un nouvel album qui s'appelle Boucan d'enfer, et dont j'ai fait le livret, et on en a fait un livre.
Vous allez me la chanter, la chanson? C'est la mer qui prend l'homme.
Ça, je risque pas de m'aventurer. J'ai l'oreille des casseroles, et donc, c'est pas mon...
En c'est tout pas cas, mon la mode mère, d'expression favori. Elle vous a pris, non pas un mardi, mais un jour du début des années 70, je crois pour être précis, c'est en 73, vous avez 18 ans. On vous a quitté à la fin du premier épisode, vous étiez parti en bateau stop faire la route des Alizés, donc des Baléares aux Antilles en quelque sorte. Et ça a été le début d'une longue aventure de navigateur. On commence par le début, si vous le voulez bien. Vous débarquez à Sainte-Lucie après 33 jours de mer.
Oui.
Alors déjà... Quel souvenir avez-vous de ces 33 jours de mer?
Horrible.
Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Horrible, parce que j'avais été embarqué par un type avec qui j'ai cohabité, n'est-ce pas, à deux pendant...
Vous
pendant,
mieux s'entendre,
pendant
hein,
33
cas-là.
Jours, ben, c'était pas exactement le cas. J'ai posé mon sac au premier port d'arrivée, à Sainte-Lucie, où j'ai séjourné un certain, quand je parle de, que je suis un artiste vagabond, c'était vraiment une époque vagabonde, où je savais pas trop où j'allais, ce que j'allais faire. J'avais pas du tout dans l'idée d'être un navigateur professionnel. J'avais apporté dans mon sac de voyage quelques gouaches et quelques carnets. Je dessinais comme ça, mais sans savoir, sans but précis. Et je proposais pour vivre. À l'époque, il y avait pas beaucoup de tourisme, mais il y avait quelques terrasses de café où je pouvais faire des portraits de gens. Et je faisais des portraits de navires. Et puis je proposais mes services de mousse sur les navires qui passaient dans le coin. Et c'est comme ça que j'ai été embarqué à un moment donné à Sainte-Lucie par un navire, ça ne vous dira rien, il s'appelait le Vendredi 13 et qui appartenait à Jean-Yves Terlin, qui était un marin connu de l'époque, qui est devenu par la suite un de mes concurrents favoris, un type que j'aime beaucoup, et c'est la première fois que je montais sur un bateau qui était un bateau de course. C'était un trois-mâts qui avait été reconverti en bateau de croisière. Et moi, on faisait du charter à l'époque. Et j'étais un multitâche à bord, un débutant. Et il se trouve qu'à cette époque-là, donc j'ai vagabondé un petit peu. On a navigué dans toutes les Antilles, depuis les Grenadines jusqu'aux îles Vierges pendant quelques mois. Et il se trouve qu'il était venu pour moi. Je me rappelle avoir fêté mes 20 ans sur le Vendredi 13. Et à l'époque, il y avait une chose à laquelle on n'échappait pas, c'était le service militaire. Et j'ai reçu une convocation pour venir faire mes 3 jours. Dans mon idée, à l'époque, de Babacool, le vagabond des mers du Sud, n'est-ce pas, c'était pas du tout dans mes plans. Je me suis dit, je vais pas rentrer. Et là, c'est à cette époque-là que Jean-Yves Terlin, le propriétaire du bateau, et son co-skipper Yvon Fauconnier, qui était aussi un skipper connu qui a remporté la Transat, par exemple, etc. Ils m'ont dit, écoute, Titouan, tu peux pas faire ça, tu vas devenir insoumis, c'est pas déserteur, mais enfin, tu pourras pas rentrer en France pendant 15 ans, tu vas être recherché, etc. Nous, on a un copain auquel la Marine Nationale offre les services de 4 appelés tous les ans, gratuitement, pour l'aider sur son bateau. et on va lui proposer ta candidature parce qu'il choisit lui-même ses appelés et souvent sous recommandation de ses amis. Et ce marin, c'était Éric Tabarly. Éric Tabarly, à l'époque, était quand même considéré comme... Il y avait De Gaulle et Tabarly en français. C'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire que c'était le grand marin français. Et évidemment, je suis rentré en France, à bord du Vendredi 13 d'ailleurs, pour faire mes 3 jours. J'ai été choisi par Éric Tabarly, qui ne m'avait jamais vu. Et c'est comme ça que je suis
entré. C'est ça qui a changé votre vie, en fait.
Ça a changé une partie de mon parcours, en tout cas. Parce que je n'imaginais pas, même si j'avais navigué sur quelques bateaux, que j'allais devenir un professionnel de la navigation. Mais c'est venu bien plus tard. Et Éric Tabarly nous étions un équipage de 11 personnes. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer un petit peu ce que j'appellerais la famille de la vie, c'est-à-dire que c'est à ces occasions, avec ces navigations, que j'ai rencontré Florence Artaud, Philippe Poupon, le docteur Jean-Louis Etienne, qui était le docteur du bord, en fait des gens que je n'aurais pas imaginé pouvoir croiser dans ma vie, et qui sont devenus les amis de ma vie, quoi. Enfin, c'est ma famille, ma seconde famille, et Éric Tabarly nous a embarqués pour un voyage tout à fait merveilleux, c'était un tour du monde, c'était le plus grand, enfin le plus réputé capitaine de son temps à l'époque en France, mais c'était aussi le grand spécialiste pour prendre son temps. C'est-à-dire qu'on est parti, on a fait vraiment le tour du monde par le chemin des écoliers. Le prétexte était de rejoindre Los Angeles pour prendre le départ d'une course à laquelle on a été empêché de prendre le départ pour des questions techniques. Le bateau ne correspondait pas aux règles de la course. Et par exemple, à Los Angeles, il a dit, bon, s'ils veulent pas de nous, on va rejoindre la Nouvelle-Zélande pour rejoindre la 3e étape de la course autour du monde qui s'appelait la Whitbread à l'époque. Mais pour rejoindre la Nouvelle-Zélande, on a mis, je sais pas, 6 à 9 mois en égrenant toutes les îles du Pacifique. Et c'est là d'ailleurs que j'ai participé, qu'il avait découvert qu'il avait un équipier artiste. Et c'est ainsi que j'ai participé à ma première publication.
Son guide de manœuvre.
Le guide de la manœuvre que j'ai réalisé avec lui. Lui, à la table à cartes, écrivait son texte et moi, je faisais des petits croquis que je lui soumettais. Et après, je me suis arrêté 3 mois à Tahiti pour réaliser les rendus et j'ai retrouvé l'équipage un peu plus tard en Nouvelle-Calédonie. Et puis, nous avons pris le départ de la 3e étape de la course autour du monde de l'époque. Et ça nous a, et je suis resté quasiment 2 ans et demi à bord de ce navire. Et, quand même, à l'arrivée à Portsmouth de la course, s'achevait pour moi mon temps prolongé du service militaire, surtout de marin d'Éric Tabarly. On était très loin. C'était un marin qui était le moins autoritaire qui soit et qui était un type que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il avait une qualité immense qui était une absence totale d'a priori. Sur les gens, on aurait pu garder le souvenir, en tout cas, de ce personnage comme un officier de marine rigide. Pas du tout, son équipage, de toute façon, qui était tous des, on pourrait appeler ça des bénévoles. Enfin, on n'était pas payés. À l'époque, c'était vraiment des vagabonds, quoi. Tous autant qu'ils étaient à l'époque. C'était pas des marins professionnels comme on peut voir aujourd'hui. Mais je me suis dit, à l'issue de ce long voyage à bord du bateau d'Éric Tabarly, je me dis, bon, pour ce qui est de la mer, c'est bon. Je peux pas faire mieux que d'avoir navigué sous les ordres du capitaine le plus prestigieux. Et j'ai posé mon sac à terre et j'ai eu dans l'idée de m'installer à terre ferme et de m'installer dans un atelier comme il se doit. Pendant quelques années, j'ai fait plusieurs tentatives infructueuses de sédentarisation. Parce que si c'est jamais arrivé, c'est à cette période-là que j'ai pris ma compagne de l'époque et la mère de ma fille. Nous sommes partis pendant un an dans le Haut Atlas marocain, dont ce retour au Maroc, mais qui a engendré deux ouvrages que nous avons réalisés là-bas.
Réunis sous le titre 11 lunes au Maroc.
Réunis, oui, ça s'appelait Sous les toits de terre et un hiver berbère, qu'on a réuni récemment, on a réédité sous le nom de 11 lunes au Maroc chez Gallimard. Et également, j'avais publié, alors le premier livre que j'ai réellement publié sous mon nom, c'était un roman. Un roman, toujours grand lecteur, j'ai toujours eu des velléités d'être écrivain, ce que je ne suis pas, n'est-ce pas? Enfin, il se trouve que j'ai écrit un roman, inspiré par les récits que j'avais consignés pendant mon séjour dans le Haut Atlas. Et ce roman, je l'ai envoyé à l'époque par la poste, comme on faisait à l'époque, pour, dans toutes les maisons d'édition. Et il se trouve que De Noël a retenu mon livre. Et le lecteur à l'époque m'avait dit, on pense que dans 4 ou 5 romans, vous nous ferez des best-sellers, vous avez quelque chose. Et puis j'en ai jamais écrit
et
d'autres.
Et vous avez arrêté.
Et j'en ai jamais écrit
vous avez arrêté aussi, Titouan Lamazou, parce que vous êtes parti ou reparti, de fait à peu près vers 1985, j'aime bien les dates sont à peu près, mais là, ça, je crois que c'est à peu près ça.
Oui, c'est
1985,
ça,
vous partez comme voilà, coureur d'océan.
Et, voilà, et c'est un lien d'ailleurs avec ce roman, parce que à un moment donné, dans une de mes ultimes tentatives de sédentarisation, je me suis aperçu, j'étais dans l'Hôte à l'époque, j'avais un atelier là-bas, et je m'aperçus que je dessinais des cocotiers, des bateaux et des horizons maritimes. Je me suis dit, j'ai pas fini avec cette histoire. Et j'ai appelé un copain, un de vos confrères journalistes de l'époque. Je lui ai demandé si le Box Challenge, qui était une course qui avait été organisée précédemment, allait être renouvelé. Il m'a dit oui. Donc j'ai posé mes pinceaux. Et je suis parti chercher des sponsors. Et il se trouve que, petite anecdote, il se trouve que j'avais rencontré un sponsor à l'époque qui est devenu mon sponsor principal du bateau Écureuil d'Aquitaine. Avec Aquitaine Bordeaux, c'était Jacques Chaban-Elmas. Écureuil, c'était les caisses d'épargne à l'époque.
Écureuil d'Aquitaine et de c'était les noms de vos bateaux.
Voilà. Et il se trouve que le responsable de la communication à l'époque de Écureuil avait lu un des rares lecteurs, parce qu'on peut y avoir échappé, hein, mais enfin, il avait lu mon roman, il avait beaucoup apprécié. Donc ce roman, il a servi
finalement
à quelque chose, c'est que j'ai trouvé un sponsor pour m'engager dans ma première course comme capitaine, une course autour du monde en solitaire, cette fois-ci avec des escales, qui partaient de Newport aux États-Unis, Cape Town, Afrique du Sud, Australie, et Sydney, et puis Rio de Janeiro, et retour à Newport.
Et ça, vous l'avez gagné, celle-là?
Alors, non, celle-là,
pas
je ne l'ai pas gagnée. Et si on m'avait dit au départ de ma première course, quand même, comme jeune skipper inexpérimenté, j'allais arriver second au classement général de l'épreuve, j'aurais été, mais fou de joie.
C'était pas le Cape Town-Sydney, celle-là?
Ça, c'est une des étapes. J'ai remporté une des étapes.
Ouais, c'est compliqué, votre histoire. Donc là, vous êtes arrivé second dans le Box Challenge.
Après, vous avez été vainqueur, ça sera plus simple. Quatre étapes dans une course. Et il se trouve que si on m'avait annoncé que j'arriverais second, j'aurais été fou de joie. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Quand je suis arrivé à Newport à l'issue de cette longue course, eh ben, j'ai été extrêmement humilié de ne pas arriver premier. Et c'est devenu extrêmement présent. C'est-à-dire que je suis rentré dans la peau d'un coureur d'océan et d'un sportif. De haut niveau. Et je trouve d'ailleurs que cette période de ma vie qui a été très courte, très médiatisée, les gens m'ont connu parce que j'ai remporté surtout le Vendée Globe quelques années plus tard.
On va en parler, bien sûr, quand même.
Mais j'ai vécu cette période d'une façon assez agréable. Parce que, en fait, la vie d'un sportif de haut niveau, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas de doute. On a un objectif, c'est de franchir une ligne d'arrivée en tête. Et lorsque j'ai été second dans la première course à laquelle je me suis inscrit, eh ben, je n'ai plus pensé qu'à devenir premier de la suivante.
Et la suivante,
c'était au cours de ces entre-marins de cette épreuve, le Box Challenge, que lors des escales dans les ports, nous avions imaginé organiser une course sans escale. Et c'est le vainqueur de cette épreuve, le Boc, qui s'appelait Philippe Gentot, qui a organisé une course qui s'est appelée le Vendée Globe, dont le départ était donné 4 ans plus tard. J'ai passé 4 ans avec un seul objectif, c'est de franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe en tête. Et c'est une vie relativement confortable. Voilà, parce qu'on est... Un artiste, par exemple, il n'y a pas un moment quand vous peignez un tableau, vous n'êtes pas envahi par le doute, vous avez envie de le mettre à la poubelle, vous ne savez pas où vous allez, il y a plein d'interrogations. Alors que là, la vie d'un sportif, il n'y a pas d'interrogation. C'est simple.
Voilà. Alors moi, je vais faire une petite note de bas de page que vous allez contrôler, bien sûr. Hein. Mais Le Vendée Globe, donc, c'est une course à la voile en solitaire, organisée tous les 4 ans, sans escale et sans assistance.
On ne savait pas à l'époque qu'elle allait être organisée tous les 4 ans. C'était le Vendée Globe.
Autour du monde, en partant des Sables d'Olonne.
Et en revenant aux Sables d'Olonne.
Et c'est quand même, le Titouan-Lamazou, l'une des épreuves sportives les plus extrêmes. En tous les cas, c'est considéré comme l'Everest des mers, donc ça dit quand même pas mal de choses. Et j'aimerais vous demander si vous êtes d'accord, pourquoi, à votre avis, c'est considéré comme, puisque vous l'avez faite, vous, cette course?
Bah, à l'époque, si vous
ça
voulez...
Ça met vraiment à l'épreuve un certain nombre de...
À l'époque, nous savions, nous, ceux qui nous... On s'était inscrits dans cette épreuve, il y avait à l'époque Loïc Perron, Philippe Poupon, Jean-Yves Tarlin... qui était mon ancien capitaine, et un certain nombre de marins. Nous savions que c'était une épreuve difficile dans la mesure, sans escale, on connaissait tous quasiment les 40e rugissants, mais par petits tronçons, comme ça, de courses avec escale. Et on savait que ça allait être difficile. D'ailleurs, personne n'aurait affirmé qu'on allait arriver au bout de cette course à l'époque.
Il n'y a pas aussi autant de mesures de sécurité voilà. que maintenant, hein.
Oui, il n'y avait pas de point de passage, c'était une autre époque. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de... On était assez tranquilles. Ce qui a changé avec aujourd'hui, c'est pas... les bateaux vont beaucoup plus vite, ils vont quasiment 2 fois plus vite que nous, ils sont plus sûrs. Mais ce qui a changé surtout, c'est la communication. À l'époque, on communiquait avec la Terre par la radio. Et la radio, moi qui avais appris le métier auprès d'Éric Tabarly, qui était peu disert, qui était peu bavard, ben moi j'avais pris le pli, et ma radio ne marchait pas souvent. Quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un skipper qui fait le Vendée Globe, s'il n'envoie pas une vidéo directe chaque jour, il est pénalisé. À l'époque, on était vraiment solitaire, voilà. Bon, il se trouve que c'était une course, surtout qui a eu un impact imprévu. C'est-à-dire, 8 jours avant le départ du Vendée Globe, du premier Vendée Globe, personne n'était au courant. Et il y a quelque chose, et même ils étaient très inquiets dans la course, parce qu'ils disaient, ils vont partir, et puis non, ils vont partir 4 mois, 5 mois, puis on va les oublier, quoi. Alors, ils étaient les organisateurs de la course, essayaient de trouver tous les moyens possibles pour essayer de faire vivre cette course. Il se trouve que dès le premier jour, cette course a pris auprès du grand public. Et à l'arrivée, c'était totalement imprévu. Enfin, on m'avait dit que ça avait beaucoup de succès, tout ça. Il y avait 100 000 personnes. Je suis arrivé à 2 heures du matin. Il y avait 100 000 personnes sur le quai. Et c'est devenu un événement qui a toujours, jusqu'à aujourd'hui, c'était la 10e édition cette année du Vendée Globe.
On est en 2025, a toujours
gardé cette même réputation de ces comparatifs qui sont heureux ou pas, des restes de la mer, du défi le plus difficile pour les marins, etc.
Oui, parce qu'il y a l'épreuve de la solitude, la résistance physique et mentale, c'est très technique, c'est ce que j'ai lu, hein, et que vous traversez en plus les océans les plus redoutables.
Oui, voilà, moi ce que j'avais pas du tout, je craignais pas du tout de côtoyer les éléments, c'est pas ça qui me faisait peur du tout, c'est-à-dire que la mer, on va avec, on va pas contre, mais moi ce qui était... qui m'a habité pendant cette épreuve du premier jour, mais c'était déjà depuis 4 ans, du premier jour jusqu'au dernier, ce qui m'effrayait, c'était mes concurrents. Moi, je voulais devenir premier. Enfin, je voulais gagner. Et j'ai été vraiment habité par ça, et je pense que si j'ai remporté le Vendée Globe, c'est parce que c'était moi qui avais le plus envie de le gagner. Voilà, que je m'étais préparé mieux que les autres. Probablement pour cette issue. Et il se trouve qu'à l'issue du Vendée Globe, quand j'ai finalement fini par franchir cette ligne d'arrivée en tête, eh bien, ce sentiment de ce besoin d'exister par la compétition m'a totalement abandonné. Et j'ai raccroché mon ciré, et en clair, j'ai repris mes pinceaux. J'ai eu un moment de flottement quand même à ce moment-là, que j'ai pas bien vécu, c'est qu'il m'était arrivé une chose qui était tout à fait improbable. Parce qu'en général, bon, quand on gagne une course au large, c'est pas comme si on gagnait le championnat du monde de football. On est beaucoup moins. La notoriété que cela engendre était très relative. Mais là, c'était pas le cas. Je me suis retrouvé tout d'un coup avec une notoriété importante, tout au moins en France, et que j'ai assez mal vécu. Et on n'est jamais préparé pour ça. On passe 4 ans à préparer. Un truc, c'est franchir une ligne d'arrivée en tête. mais on prépare pas du tout ce qu'il y a derrière. Et j'ai eu un petit moment de flottement qui fait que j'ai un petit peu prolongé. J'ai été poussé de partout, fait par moi-même aussi, pour prolonger cette brillante carrière de navigateur professionnel. Mais en fait, je n'avais pas du tout envie. Et j'ai fini par reprendre mes pinceaux.
Vous n'êtes pas arrêté au Vendée Globe. Il y a quand même eu cette deuxième course mythique aujourd'hui, qui est la Route du Rhum.
La Route du Rhum que j'avais remportée en monocoque, ce qu'on appelle la classe des IMOCA aujourd'hui.
Course transatlantique en solitaire à la voile qui relie Saint-Malo, voilà, en Bretagne, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et vous l'avez remporté en 1990, battre Loïc Perrault.
En monocoque, oui, parce que il y avait à l'époque, et toujours d'ailleurs, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait un championnat du monde des skippers. Un peu comme l'ATP du tennis, on est premier mondial, ceci, cela. Il y avait 600 skippers ou 700 inscrits dans ce championnat du monde. Mais c'est pas comme le tennis, il n'y a pas un match tous les 15 jours en voile. Hein. On a une épreuve de course au large, ou deux maximum par an, ce qui fait que c'est sur 4 ans. Et moi, j'ai accumulé le plus de points sur 4 ans. Et il se trouve que, à l'issue du Vendée Globe, Loïc Perrault était arrivé second derrière moi. Il avait engrangé pas mal de points aussi. Et il se trouve que si Loïc remportait la Route du Rhum...
Il devenait champion du monde. Et ça,
alors, j'ai pris le départ de la Route du Rhum pour empêcher Loïc de me ravir la place. Et il se trouve que j'ai remporté dans la Route du Rhum en monocoque et que Loïc a dématé. Donc,
il a dû abandonner, en fait.
Oui, il a dû abandonner. Bon, mais cette victoire dans la Route du Rhum a été un petit peu... Ma victoire a été un peu occultée par celle de Florence Artaud qui a gagné au classement général et qui était quand même sur un mode absolument...
Elle a remporté la course en multicoque, elle.
En multicoque.
Et c'était la première femme à remporter.
C'était la première femme à remporter.
Transatlantique.
Voilà, et c'est la dernière d'ailleurs. Hein. Et c'était une bonne amie.
Elle a été vainqueur de la Route du Rhum, voilà, en 1990, donc, sur son trimaran Pierre Ier.
Voilà, et là, c'était vraiment ma dernière course. Et là, j'ai raccroché le ciré pour reprendre mes
pinceaux. Non, dites-moi, la Madou, parce qu'avec Florence Artaud, qui est devenue une amie, vous avez créé en 92 le trophée Jules Verne.
Oui, avec Florence Artaud, on a créé le trophée Jules Verne, parce que déjà, à l'époque, les courses commençaient à être réglementées. Ce qu'on appelait la course open, c'est-à-dire la course ouverte, libre. Il y avait plein de règlements et tout ça, etc. Et puis surtout des règlements de taille. On rêvait tous de commander des grands navires. Et à l'époque, il y avait plus d'épreuves qui acceptaient des navires de plus de 18 mètres. Et donc on a créé avec Florence le trophée Jules Verne qui récompensait le premier navigateur qui accomplirait le tour du monde en moins de 80 jours. Et se trouve, si Jules Verne se passerait de main en main et récompenserait le recordman absolu du record. Aujourd'hui, c'est quelques 30 ans plus tard, on est passé à 40 jours. Et moi, j'avais construit à l'époque, fait construire une goélette de 40 mètres, un énorme bateau, le plus gros budget du yachting de l'époque, sinon du XXe siècle, et qui a fait naufrage 15 jours après son lancement. On avait dépassé le seuil d'innovation autorisé, qui fait que là, j'ai vraiment raccroché mon ciré.
Cette fois, c'était vraiment...
C'était la course que je n'aurais pas dû faire, parce que je n'avais pas envie de le faire, en plus. Voilà.
C'est la course de trop.
Oui, il fallait ça pour que je retourne à mes pinceaux.
Au final, Titouan Lamazou, cette course, ou ces courses au large en solitaire, ont représenté une parenthèse dans votre vie de peintre, mais... Qu'est-ce que vous en retenez de la mer?
C'est-à-dire que cette mer-là, moi je vous ai parlé de mon état d'esprit quand j'étais un coureur professionnel. J'étais un coureur professionnel. C'est-à-dire que l'aspect... La mer qui m'a attiré au départ parce que c'était d'abord un inconnu et que j'étais curieux de voir ce qu'il y avait derrière les horizons maritimes. J'étais curieux de connaître ce monde, ce qu'on appelle ceux qui vont en mer. Il y a les vivants, les morts et ceux qui vont en mer, que je ne connaissais pas du tout. J'étais très attiré par ce monde. Et puis c'était un moyen aussi de mouvement, de voyage, qui est lent, qui est doux. Il y a rien de plus agréable aujourd'hui encore. C'est-à-dire que il y a rien de plus agréable que d'aborder un pays par la mer, surtout avec un voilier, parce qu'on le fait doucement. C'est très très
sans bruit.
C'est très naturel, sans bruit, sans décalage horaire. Et j'ai repris cette mer-là après ma brève, mon bref parcours de coureur d'océan, je continuais à naviguer, à voyager, pas forcément en bateau, de la même manière, mais en étant dépourvu d'esprit de compétition.
J'ai rassemblé ce que disaient vos concurrents à l'époque, mais ce que disent les coureurs depuis, en particulier sur le Vendée Globe, mais sur d'autres courses, et souvent ce qu'on évoque, c'est en dehors des meilleurs moments, du côté sensuel de la mer, par exemple pour Isabelle Autissier, mais les nuits sans sommeil, les tempêtes, donc le vent, le dialogue intérieur de solitaire en mer, la technique, les défis, la fatigue, le rapport au corps, la peur quand même. Est-ce que tout ça vous parle ou est-ce que vraiment, non, c'est très loin de vous?
C'est loin, je m'en souviens pas énormément. Je sais qu'il y avait une peur présente du début à la fin, surtout dans la période des 40e, où on passait 40 jours quand même dans ces mers qui sont plutôt hostiles. Il n'y avait pas de règles à l'époque de point de passage. On doublait des icebergs tous les 3 jours.
C'est là d'ailleurs que votre ami Philippe Poupon avait chaviré. Les images sont restées dans les annales de la course.
Voilà, et bon, il y avait cet aspect-là, mais pour moi, je pense que je le disais déjà à l'époque, je pense que le sentiment de solitude, il était plutôt choisi que subi. Hein. Et d'autre part, je pense que j'ai jamais été moins seul que pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens qui se préoccupaient de savoir où j'en étais, qu'est-ce que je faisais, etc. Le reste de la vie s'est passé beaucoup plus en solitaire. Donc c'était pas cet aspect-là. C'était vraiment. Et puis j'étais quand même. J'ai même fouillé dans l'INA et dans les quelques peu de témoignages audiovisuels qu'on peut avoir à l'époque, ou même audio. Il y en avait moins qu'aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, à l'arrivée, j'étais extrêmement surpris de l'intérêt que les gens avaient manifesté pour cette épreuve et d'être. Moi, j'avais l'impression de faire un truc absolument normal. J'étais préparé pour ça. J'avais toujours eu le sentiment, et je l'ai toujours d'ailleurs, qu'on n'a pas un endroit où on soit plus en sécurité dans le monde que lorsqu'on est seul sur un bateau au milieu de l'océan, pour peu que le bateau soit un bon bateau, qu'on sache s'en servir, quoi, faire un minimum. Et parce que pour la bonne raison, c'est que l'ennemi de l'homme, comme du reste du vivant, c'est l'homme. Et là, on est tranquille.
Et donc, vous avez repris vos vagabondages artistiques et votre vie solitaire de peintre. C'est ce que nous verrons dans l'épisode 3, Titouan Lamazou, la peinture vagabonde. À demain, merci.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Titouan Lamazou, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Benjamin Troncin et Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.